aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Réactions inattendues, relations surprenantes ou irrationnelles, interactions sociales altérées, les signes et comportements associés à l'autisme sont multiples, variés, plus ou moins présents, plus ou moins envahissants. Autisme ou trouble du spectre autistique, handicap, différences, les perceptions, les explications sont-elles aussi multiples et variées ? Et ces troubles, étant donné qu'ils apparaissent le plus souvent au cours des trois premières années de la vie, impliquent directement l'entourage, la famille et bien sûr les parents. Parents et corps médical qui peuvent avoir une vision, une compréhension particulière de l'autisme, des troubles pluriels, ce qui peut conduire à des errances de diagnostic et une forme d'incompréhension amplifiée par l'insuffisance des capacités d'accueil, des offres de prise en charge, comme parfois leur inadaptation aux problématiques rencontrées. Les autorités tentent de pallier ces insuffisances au travers de programmes, de moyens. La France en est à son quatrième plan autisme. Et nouveauté à l'occasion de la journée mondiale de 2019, c'est le lancement en France d'une plateforme téléphonique Autisme Info Service pour répondre aux questions sur l'accompagnement et offrir une écoute aux personnes autistes et à leurs familles. Journée mondiale de l'autisme avec donc l'ouverture de cette plateforme Autisme Info Service numéro gratuit en France. Il s'agit du 0800 71 40 40, un centre d'appel associé à un site web. Nous mettrons bien sûr le lien de ce site sur notre propre lien Priorité Santé. Et avec nous en studio aujourd'hui, docteur Noël Pompuy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, psychiatre, thérapeute familial, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, vice-président de la commission médicale d'établissement à l'hôpital de Ville-Évrard, à Neuilly-sur-Marne, c'est en région parisienne. Trouble qui implique, on l'a dit, toute la famille qui mobilise les parents. Avec nous, deux parents. Lydie Lepunga, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la maman de quatre enfants, dont Max Kevin, 16 ans, Ray Oscar. Vos fils sont tous les deux autistes. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, dans l'émission. Et avec nous, également, vous, Mamadou Fané. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le père de quatre garçons. Et votre petit garçon, votre fils de 7 ans, Cheikh Ibrahim, est lui aussi autiste. Tout à l'heure, nous parlerons de la recherche. Pour cela, nous serons en ligne de Montpellier avec le professeur Amaria Baghdadli, professeur des universités à la faculté de médecine de Montpellier, responsable du département universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Montpellier.
Priorité santé sur RFI.
Et avant de donner la parole à nos invités en studio, nous allons tout de suite retrouver en ligne Corinne Thor. Corinne Thor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice d'urgence de Médecins Sans Frontières. On vous retrouve pour parler de l'épidémie de choléra qui frappe les zones sinistrées par le cyclone Idai au Mozambique notamment. Nous avons enregistré cet entretien juste avant notre émission. Vous vous trouvez précisément à Tika, hein, c'est au nord de la ville de Beira, dans cette région d'Afrique australe, frappée donc il y a un peu plus de deux semaines par le cyclone. Sur place, bilan de plus de 700 morts. Donc Mozambique, Zimbabwe, Malawi touchés. Au Mozambique, hein, Corinne Thor, c'est là que vous êtes. C'est la zone la plus durement touchée. Comment on peut décrire les lieux, surtout comment décrire la situation pour la population ?
Actuellement, les ONG qui interviennent et qui aident le gouvernement se mobilisent particulièrement sur Beira, qui a été énormément touché. En revanche, ce qui se passe actuellement, c'est sur la région précisément de Tika, de Nyamatanda ville, où il y a un manque avéré d'intervention. Donc nous avons fait le choix d'intervenir dans ce coin plus reculé, et la situation clairement s'améliore aujourd'hui, puisque après trois semaines, il ne pleut plus. Donc toute la partie qui a été inondée diminue petit à petit, mais il y a encore des zones inondées avec une population qui a perdu ses maisons, donc qui se retrouve toujours à la rue, qui n'a pas accès à l'eau potable, et nous avons finalement de plus en plus de cas de diarrhée sévère qui se transforme en choléra avérée.
Alors, sur le plan sanitaire, justement, ces maladies diarrhées qui ont fait leur apparition, bilan officiel donné par le directeur national de la santé du Mozambique, ce sont les tout derniers chiffres, 1004 cas de choléra, un mort, une centaine d'hospitalisations. En quoi consiste aujourd'hui la prise en charge de ces maladies diarrhéiques sur place, Corinne Thor, en situation de crise ?
Alors actuellement, il y a des centres de santé qui malheureusement ne sont pas en capacité de traiter ces patients parce qu'ils ont été eux-mêmes affectés par le cyclone, donc des destructions, et il s'agit d'aller faire des rénovations de centres de santé. Nous sommes par exemple, nous, impliqués sur la... Peut-être parce que nous faisons actuellement l'exploration sur le sujet, sur la rénovation de 17 centres de santé, sur un appui médical de ces 17 centres de santé. Nous avons fait le choix de nous investir sur le centre de santé de Tika, car il y a une population importante autour de Tika qui est donc dehors et qui n'a pas accès à l'eau. Sur Tika, sur le centre de santé de Tika par exemple, ils reçoivent à peu près 200 patients par jour et depuis deux semaines, il y a 130 cas qui probablement étaient des cas de choléra, mais comme ils ne pouvaient pas procéder à des tests, ils avaient tendance à appeler cela des cas de diarrhée sévère. Hier, nous avons mis en place une dizaine de lits pour pouvoir commencer à prendre en charge des patients. Nous ne sommes pas totalement prêts à prendre tout le monde en charge puisque nous sommes en train de réceptionner nos frettes et de recruter du personnel, mais c'est évident que les cas que nous voyons sont des cas avérés de choléra.
Alors, problème, on a compris, hein, de logement, d'habitation, problème d'accès à l'eau potable, à l'eau propre, et bien sûr, question alimentaire. De quoi disposent aujourd'hui les populations, Corinne Thor, sur le plan alimentaire ?
Aujourd'hui, en fait, il y a des distributions alimentaires qui sont organisées par les Nations Unies. Malheureusement, il y a une partie de la population qui n'a pas pu encore accéder à ces distributions alimentaires puisqu'il y a encore des zones éloignées. Nous sommes en zone rurale, comme vous le précisiez. Donc, il y a des poches de population dans différents coins des districts. Et c'est la difficulté aujourd'hui de pouvoir accéder à ces personnes qui sont bloquées de l'autre côté des rivières ou parce que les ponts se sont effondrés sur les routes et qui risquent d'être en grave difficulté, d'où la problématique de connaître réellement un vrai chiffre de personnes qui sont encore soit peut-être décédées, soit peut-être en énorme difficulté parce qu'après trois semaines, toujours pas accès à de l'eau, à de la nourriture et aux soins.
Corinne Thor, un dernier message à faire passer ?
Oui, je pense que tout le monde se mobilise actuellement. Il faut continuer cette mobilisation. Le ministère de la Santé organise aujourd'hui, à partir de jeudi, une campagne de vaccination choléra. C'est très très bien. Et il faut absolument réfléchir au fait qu'il y a encore des populations qui n'ont pas accès aux soins. Il faut tout se mobiliser pour que ça se fasse le plus vite possible.
Merci infiniment pour ce témoignage. Hein. Tika, près de Beira, au Mozambique, au cœur de la zone ravagée par le cyclone Idai. Merci Corinne Thor. Je rappelle que vous êtes coordinatrice d'urgence de Médecins Sans Frontières.
RFI.
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On retrouve donc nos invités en studio pour insister d'emblée sur un point, docteur Noël Pompuy. Ces termes qu'on emploie, qui ont beaucoup d'importance, est-ce qu'on peut dire finalement que quand on parle de l'autisme, on avance un petit peu, on va dire, à tâtons, parce qu'il y a des mots qui choquent, il y a des choses qui blessent. Pourquoi autant de sensibilité ?
Je dirais que l'autisme est un problème médical, mais pas seulement. C'est aussi un problème politique. C'est un problème politique qui touche d'une manière générale à des dispositifs de soins spécialisés pour ce type d'enfants et d'accompagnement et d'intégration dans des milieux, par exemple, ordinaires, comme l'école. Et puis, politique dans le sens aussi de l'acceptation dans nos sociétés de sujets qui sont différents, qui ont des besoins différents. Il y a tous les aménagements qui se font pour différentes formes de handicap. Et aujourd'hui, pour l'autisme, on est encore à la traîne sur l'aménagement des lieux pour l'accueil de ce type de public. Et puis, c'est une question qui est hautement sensible pour les parents, qui pendant longtemps... dans certains courants ont été culpabilisés et aujourd'hui qui sont en attente de prise en charge pour leurs enfants, qui sont en attente de solutions et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de cause précise et du coup là on est encore dans des solutions d'accompagnement, parfois des solutions palliatives et ça reste extrêmement douloureux.
Alors, cette douleur, elle commence par le diagnostic précisément. Quels critères, quels signes, docteur Pompuy, doivent être réunis pour qu'un médecin, on va dire, envisage de poser ce diagnostic? On imagine que les choses ne sont pas catégoriques. Oui et non?
Oui et non. Alors, je dirais que les critères ont évolué en cours des dernières années. Et notamment, il y a des critères qui portaient, par exemple, sur la question du langage, ont disparu des nouvelles classifications. Et on va s'intéresser aux interactions et à la communication sociale des individus. Et à un certain nombre de particularités dans leur comportement. Donc ces critères, à partir du moment où ils ont été spécifiés un peu autrement, élargis, il y a des gens qui n'entraient pas dans ces catégories avant et qui aujourd'hui en font partie et qui parfois sont plus difficiles à repérer, donc avec des cas où il y a une complexité diagnostique, notamment c'est vrai pour des patients qui ont du langage. C'est moins vrai pour les patients qui aujourd'hui sont en plus grande souffrance, c'est ceux qui ont un déficit intellectuel associé. Donc les signes qu'on repère sont des signes d'interaction, donc c'est des enfants qui vont pas forcément chercher le contact, voire parfois vont l'éviter, qui vont préférer des activités solitaires, qui ne vont pas entrer en interaction pour échanger leurs intérêts, par exemple présenter un objet, qui ne vont pas pointer, qui ne vont pas chercher à attirer l'attention d'autrui sur leurs activités ou sur des choses dont ils ont besoin ou qui les intéressent, dans lequel le langage peut ou pas se développer. Hein. Donc le langage, c'est pas forcément la question prioritaire. Et puis, il y a des comportements spécifiques qu'on repère, qui sont des comportements répétitifs, donc des gestes répétés, des gestes qui sont à but de rechercher des sensations, essentiellement, la manière d'observer des objets, de les détourner de leur fonction initiale, par exemple, prendre le cordon d'un combiné téléphonique pour l'agiter et pour regarder son mouvement, plutôt que de prendre le téléphone pour le porter à son oreille et faire comme un enfant de 2 ans, d'imiter allô, etc. Et puis, des réactions particulières, ça c'est nouveau et c'est important de l'avoir noté parce que ça fait quand même partie des grandes difficultés des sujets autistes, c'est des réactions et une sensibilité particulière à toute la sensorialité, donc l'ensemble de l'organe des sens, que ce soit la vision, l'audition, avec parfois des surréactions ou au contraire des faibles réactions ou parfois des recherches de sensations dans ces domaines-là.
Avec par exemple, on peut le voir chez certains enfants, un réflexe un petit peu à se boucher les oreilles, oui, quand il y a, on va dire, même pas trop de bruit, un peu de bruit. Parce qu'il y a un ressenti qui est différent, ou c'est quoi précisément?
Tout à fait. Il y a un traitement de l'information qui est très différent chez les sujets autistes, qui fait qu'ils ne peuvent pas sélectionner les informations qu'ils perçoivent. La plupart des enfants, très rapidement, vont avoir ce qu'on appelle une perception intermodale, c'est-à-dire qu'ils vont associer plusieurs sensations de plusieurs sens pour en faire une sorte d'interprétation unique qui le plus souvent est sociale. Par exemple, une maman qui s'adresse à son enfant, eh bien l'enfant va avoir des informations visuelles, auditives, parfois tactiles si elle le touche, etc. Mais ça va devenir une seule sensation, c'est « maman me parle ». Et les sujets autistes ont du mal à faire cette synthèse. Et donc, il y a une somme de sensations qui s'imposent, qui n'arrivent pas à trier, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent pas ne pas être attentif à des sons. Donc tout ça les parasite sans pouvoir mettre de sens. Et ça, c'est extrêmement compliqué à vivre pour eux au quotidien.
Avec vraiment des questions multiples sur la prise en charge, sur la place, sur l'intégration. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, docteur Pompuy, la place des autistes, en tout cas, n'est pas en hôpital psychiatrique?
Alors, elle est pas. Ça dépend de quoi on parle. Parce que l'hôpital psychiatrique, en effet, c'est une certaine image d'un moment de deux grandes choses. La première, c'était l'enfermement d'enfants et l'internement quasiment à vie d'enfants qui rentraient, alors avec des déficiences, qu'on appelait ça à l'époque, ou des psychoses infantiles, et qui restaient très très longtemps, avec l'idée aussi que leurs parents s'en occupaient pas bien, donc il fallait les prendre.
C'était lié aussi aux croyances, aux visions
croyances
de l'époque.
Aux croyances qu'on avait, aussi à l'idée que dans la société, on devait mettre les gens malades de côté. Et la deuxième chose, c'est aussi le développement d'approches non spécialisées pour ces enfants qui ont été accueillis dans des centres de jour, hôpitaux de jour, donc qui a créé cette polémique sur le fait que les hôpitaux de jour n'étaient pas des lieux adaptés pour les enfants autistes, mais essentiellement parce qu'il n'y avait pas forcément d'approche spécialisée. Alors, la question aujourd'hui, c'est une gradation de soins qu'il faut, et d'accompagnement, et d'intégration, c'est vraiment les trois mots les principaux. Alors, à l'école, on appelle ça inclusion. À des degrés divers et en fonction des besoins des enfants. Chaque enfant doit avoir un projet spécifique, qui doit tenir compte de ses besoins, de ses difficultés et malheureusement des moyens disponibles sur le terrain. C'est ça le problème principal.
On va donner tout de suite la parole aux parents qui sont avec nous en studio. J'ai juste une dernière question. À qui revient la décision de maintenir un enfant dans un parcours scolaire normal ou la nécessité d'être orienté vers des structures spécialisées? Docteur Pompuy, qui décide?
Alors, c'est conjointement les familles et l'éducation nationale. Alors, les parents ont un droit de pouvoir dire quelque chose sur la scolarisation de leurs enfants. Il arrive parfois... Alors, généralement, les choses se passent bien et sont concertées. Il y a une discussion quand il y a une, je dirais, une médiation tripartite entre parents, éducation nationale et services de soins ou d'accompagnement médico-éducatif, enfin voilà, des dispositifs d'accompagnement des enfants. Et qu'on discute vraiment de manière concertée, sans se renvoyer la balle les uns aux autres sur ce qu'on va faire ensemble. Mais il arrive parfois qu'il y a des situations conflictuelles ou parce que l'école n'est pas en mesure d'accompagner l'enfant ou que pour la famille a des demandes très importantes ou que le lieu d'intégration marche pas et qu'il y a des conflits dans ces cas-là. Ça arrive dans des instances de médiation au niveau de l'éducation nationale.
Alors, ce diagnostic, bien sûr, qui conditionne toute la prise en charge, avec tellement de bouleversements pour l'entourage. Lydie Leponga, je vous donne d'abord la parole. Je disais tout à l'heure, deux de vos fils sont concernés par ces troubles. À quel signe, à quel moment vous avez décidé de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que c'était d'ailleurs les mêmes signes chez chacun de vos deux enfants?
Ça était différent. Le premier, il a commencé un tout petit peu à parler. C'était le premier enfant, hein, donc on était tous autour de lui. Il a débuté bien. Et à partir de 15 ans, entre 15 et 16 mois, ben, ça a changé brutalement. Plus de mots, se met dans un petit coin, il tourne généralement en rond, il se balance, il crie.
C'était plus de nouveaux mots ou il a arrêté de vous parler?
Il a arrêté parce qu'il disait déjà un peu « papa ». Quand il avait envie d'aller aux toilettes, il disait le mot qu'il faut. Mm-hmm. Ben, du jour au lendemain, plus rien. Il pouvait faire sur lui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Non.
Et comment vous avez réagi quand vous avez vu justement ce changement de comportement de sa part?
Au début, non. Au début, je me suis dit, tiens, il régresse. Bon, c'est pas grave, ça passera. Mais sauf que, en continuant comme ça, ça a commencé à m'alerter. Je suis allée voir, moi, à l'époque, le médecin qui s'occupait de lui. Il m'a dit, non, il y a un problème. Je l'ai vu autrement. Là, il change totalement. Ça ne me convient pas. Je vous envoie vers le CMP pour qu'on sache ce qu'il en est réellement. Là, ça ne va pas du tout.
Centre médico-psychologique.
Exact.
Et à partir de combien de temps le mot autisme a-t-il été prononcé et par qui?
Le mot autisme a été prononcé par le médecin du CMP. Qui m'avait dit, au départ d'abord, c'est les troubles envahissants du développement. Et puis, plus tard, elle m'a parlé d'autisme.
Et vous aviez connaissance de ce mot, de ce handicap?
Que ça soit du trouble envahissant du comportement ou de l'autiste, je n'ai jamais été au courant de ça.
Alors à ce moment-là, c'est quoi votre réaction? Vous cherchez des informations? Qu'est-ce que vous faites?
Le monde s'écroule, c'est les pleurs, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Par où je vais commencer? Voilà, ça a été très compliqué. Je suis repartie vers le docteur qui s'occupait de moi à l'époque pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on pouvait le soigner immédiatement, que ça devait disparaître? Voilà. Non, elle m'a préparée à faire une thérapie derrière. Après, à faire d'abord des examens. S'il entend, s'il arrive à distinguer les sons, on a tout fait. Et puis, à ce moment-là, on a été à l'hôpital Robert Desbré pour faire des examens. Et aujourd'hui, le diagnostic est posé.
Et deuxième enfant était aussi concerné dans la fratrie.
Exact.
Avec les mêmes signes ou pas vraiment?
Mais
pas du tout.
C'était un enfant bruyant. Il allait dans tous les sens, hyperactif. Après, il est resté comme ça, hyperactif, mais sans un mot, sans rien. Impossible de le mettre à l'école parce qu'il se sauvait tout le temps. Impossible de le mettre en activité le plus simple. Voilà.
Mamadou Fanny, je vais vous donner la parole, mais on voit déjà deux enfants concernés dans une même fratrie. Docteur Pompuy, c'est quelque chose de fréquent?
Alors, on sait qu'il y a un risque plus important quand il y a un enfant dans une fratrie que d'autres enfants soient touchés. On sait que ça probablement liée à une partie génétique, à une participation. Mais aujourd'hui, la génétique de l'autisme est quelque chose de très complexe, avec l'intrication de probablement plusieurs gènes à des niveaux différents, avec des gènes qui sont déclencheurs, des gènes qui créent d'autres niveaux de sensibilité. Mais en effet, il n'est pas rare, maintenant j'ai pas les statistiques là-dessus, mais en tout cas de trouver plusieurs enfants dans une fratrie qui sont touchés par ces troubles.
Mais c'est un peu étonnant quand Madame Lydie Leponga nous dit développement quasi normal et un jour il y a un blocage et puis cette régression. C'est quelque chose qui est observé fréquemment.
C'est très fréquemment rapporté par les parents. On est encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce genre de situation. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés, notamment sur des films familiaux, c'est-à-dire les vidéos qui avaient été faites par des parents et qui essayent de trouver quels seraient des signes précoces qui feraient que l'enfant est déjà autiste. Eh bien, c'est pas si évident que ça. Même les professionnels se trompent. Ce qui est très important, c'est l'intuition des parents, leurs sensations par rapport à ça. Et en effet, on ne sait pas à quel moment il y a une désorganisation développementale chez l'enfant qui va apparaître et de quelle manière elle apparaît.
Alors, même question que je vous adresse, Monsieur Fanet, dans le cas de votre petit garçon. Qu'est-ce qui vous a paru inhabituel, en l'observant, comme un papa, dans ses gestes, dans sa façon peut-être de s'exprimer? Là, vous avez dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
Non, pour chaque Ibrahim, ça n'a pas été ça. Chaque a eu une évolution normale jusqu'à l'âge de 18 mois. À 18 mois, il a eu une convulsion. Donc, il a été traité pour l'épilepsie. Et à la suite, il y a eu un diagnostic qui a été poussé. Et ils ont décidé, en fait, le nom à donner à cette maladie, c'est le syndrome de Mabry, qui est d'un retard global et des troubles autistiques. Bon, chaque Ibrahim est non-verbal.
Donc, il ne parle pas, pour dire simplement.
Voilà, jusqu'à présent, oui, il ne parle pas.
Mais quand vous disiez jusqu'à 18 mois, développement normal, donc il babillait, il faisait des bababa, mamama, ou il était silencieux?
Non, il était dans le développement normal de son âge, papa, maman, je vais ça, et après la convulsion, plus rien.
Et justement, convulsion, donc vous avez été l'enfant a été traité pour épilepsie, donc il a dû voir un service de neurologie peut-être?
Oui, bien sûr, il est toujours suivi à Robert Debré, en neurologie. Nous sommes restés très longtemps sur le soin, et au fur du diagnostic, c'était le syndrome de Mabry qui a été retenu.
Et ensuite, pour aller vers le syndrome d'autisme, comment ça s'est passé?
Après les troubles autistiques, en fait, nous étions beaucoup basés sur le soin. Mais au fur du temps, on a constaté un développement, c'est-à-dire qu'il y a eu une déformation de la marche.
C'est-à-dire problème pour se déplacer en plus?
Plus, voilà. Donc, on a suivi aussi des séances de kiné. Bon, le syndrome de Mabry regroupait ça. C'est-à-dire qu'il y a le déplacement à la marche, et troubles autistiques, et ensuite une convulsion. Et il a eu la perte de parole. Il ne disait plus rien.
Comment est-ce que vous avez accueilli justement ces différents diagnostics? D'abord ce trouble neurologique, puis l'autisme. Comment vous avez réagi avec votre famille?
Bon, on l'a plutôt bien accueilli parce qu'on était d'abord sur le volet soins. Donc on se disait déjà, il faut aller d'abord sur le volet soins. Donc on est resté dessus. Et après, quand on a été guidé au niveau du CMP de Noisy-le-Grand, pour l'instant, quand même, nous sommes dans le volet où on accepte la situation parce qu'on se dit que c'est arrivé à travers une maladie et le développement que ça a donné. Donc, c'est pas la même situation d'acceptation pour tous les parents.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, parce que lui, c'est à travers une cause neurologique et qu'il y a eu ce développement.
Vous pensez que pour des parents pour qui on ne donne pas, on va dire, une explication physique, c'est plus compliqué?
C'est plus compliqué.
Est-ce que c'est votre cas, madame, justement plus compliqué parce qu'on va dire, il n'y a pas un diagnostic médical qui dit à tel moment son cerveau a eu tel problème, il y a plus quelque chose de l'ordre du comportement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de, on va dire, de culpabilité, même si on va en discuter? Ça n'a rien à voir avec la faute de quiconque. Est-ce que c'est plus lourd à porter à cause de cela?
C'est plus lourd à porter à cause de cela. On s'est posé la question, nous, à l'époque, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien pour qu'on en arrive là?
Parce que vous, finalement, monsieur, vous dites, il est malade?
En fait, c'est ça. Nous, on part toujours sur le volet maladie. Et jusqu'à présent, même à 7 ans, on essaie de le suivre de près par rapport à l'épilepsie. On ne voit pas le côté autistique. Mais voilà, la prise en charge n'y est pas. On s'est dit, peut-être avec une prise en charge adaptée, il y aurait une évolution.
Il y a quelques temps, docteur Pompuy, vous l'avez dit, il y avait justement cette dimension de mise en cause de l'éducation, de l'élevage pour justifier, expliquer. On en est complètement revenu. Malgré tout, la culpabilité, elle est toujours là chez les parents. Mais en fait, c'est commun à énormément de pathologies qui concernent le développement des enfants, voire même...
Je dirais que c'est commun à la condition d'être parent. Voilà. Et quand votre enfant est malade, dites que j'ai pas assez couvert. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. Donc, être parent, c'est être responsable. Être responsable, c'est penser qu'on a quelque chose à faire. Donc, je pense aussi que on ne doit pas chercher tout le temps à... Alors, il y a la culpabilité, le vécu d'un parent, et ça, je pense que c'est quelque chose, on doit discuter, on doit les accompagner, mais on ne doit pas leur en rajouter. Je pense que c'est surtout ça qui est à prendre, à garder dans cette histoire-là de l'autisme. Je pense que les parents ont déjà assez à supporter comme ça, sans rajouter cette culpabilité-là, pour laquelle il n'y a aucun fondement.
Surtout quand on voit l'investissement que ça nécessite au niveau du temps, au niveau de l'énergie. En tout cas, on peut pas reprocher à des parents de chercher des explications. Le problème, c'est que des explications simples, il n'y en a pas.
Non, malheureusement, c'est une condition. Donc l'autisme est un trouble, qui est un trouble essentiellement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matérialisation organique, il n'y a pas de lésion qui permet de dire, ben voilà, cette lésion-là, dans le cerveau, dans les gènes, c'est un signe caractéristique de l'autisme. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études et de faisceaux de compréhension sur le plan de l'imagerie, de la génétique, qui permettent de comprendre un certain nombre de choses, mais c'est encore des balbutiements, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits.
Et l'éco-atteinte avec, comme le disait Monsieur Fanet, des maladies neurologiques, c'est aussi quelque chose de fréquent, cette comorbidité, par exemple, autisme-épilepsie ou crise d'épilepsie.
Alors, il y a deux choses. On sait que les sujets autistes sont plus à risque de développer une épilepsie, notamment au moment de l'adolescence. Donc ça va être, ils ont en gros, il y a 40% des patients qui vont présenter une épilepsie. Essentiellement les autistes avec retard mental. Là aussi, il faut distinguer ceux qui en ont un et en retard associé et ceux qui n'en ont pas. Et c'est à peu près moitié-moitié aujourd'hui dans les évaluations entre les deux catégories. Après, il y a ce qu'on appelle les autismes dysyndromiques. Ce sont des autismes qui se rajoutent à une pathologie génétique ou neurologique. Donc là, M. Fanet a parlé de cette situation concernant son fils, et dans lequel, quand il y a une maladie génétique, par exemple le syndrome d'X fragile ou le syndrome de Rett, il va y avoir un certain nombre de symptômes autistiques qui vont se rajouter aux déficits et aux difficultés présentées par l'enfant. Alors, qui arrive avec un degré variable dans ces maladies-là. Et à contrario, dans les syndromes autistiques, on retrouve aujourd'hui des anomalies génétiques dans de l'ordre de 10 à 30% des cas, mais qui n'expliquent pas à eux seuls l'ensemble du tableau clinique.
Alors, on va donner la parole à un auditeur dans quelques instants. J'ai juste cette question. Du côté des traitements, dans quel cas un enfant autiste va-t-il recevoir un traitement, il y aura une prise en charge médicamenteuse ?
Alors, c'est en ça qu'on peut pas parler de traitement de l'autisme. On va parler d'accompagnement, on va parler de mesures d'accompagnement d'une manière générale, qu'elles soient pharmacologiques, donc utilisant des médicaments ou non pharmacologiques. En priorité, elles sont non pharmacologiques. Donc, c'est-à-dire, l'usage d'un traitement, aujourd'hui, n'est pas quelque chose de courant. Même dans mon service où il y a sur 3500 patients suivis, il y en a 700 qui sont porteurs d'un diagnostic d'autisme, c'est moins de 2% des patients qui ont un traitement. Donc c'est vraiment... et puis ce sont pas des mesures qui sont des mesures efficaces. C'est vraiment dans des situations dramatiques, avec des situations comportementales très graves, avec des retards très importants, qu'on va associer un traitement. Il y a certains cas, et maintenant aujourd'hui il y a des études qui sont sorties maintenant depuis une dizaine d'années, sur les troubles du sommeil associés, qui sont quand même présents chez 80% des autistes, dont on sait qu'ils ont un retentissement sur le développement, sur la fatigue des parents, sur la disponibilité de l'enfant le lendemain, sur les troubles du comportement chez l'enfant, qui eux peuvent être traités notamment avec l'usage de la mélatonine, alors pas n'importe laquelle, celle sur laquelle il y a eu des études et qui va apporter dans certains cas, là aussi il faut être mesuré, un certain nombre d'améliorations, mais qui en aucun cas soignent l'autisme, mais qui sont des mesures d'accompagnement l'accompagnement d'un certain nombre de problèmes associés.
Je vous voyais tous les deux approuver. Je vais vous donner justement la parole avant de donner la parole à notre auditeur. Lydie Lepunga, des problèmes de sommeil pour vos fils aussi?
Pour le plus grand, le plus jeune, non. Le plus grand, on n'a jamais traité. Hein. Jusque-là, c'était... J'avais adapté la lecture à la place. Mais plus il grandit, plus ça devient plus compliqué. Donc là, il prend de la mélatonine pour dormir.
Et vous, Mamadou Fane également?
Pareil.
Il y a besoin quand même de l'aider un petit peu pour qu'il puisse se reposer. Et vous aussi?
Oui, mais c'est vrai que la mélatonine aussi a un effet double. C'est quand on le donne plus tôt, il dort plus tôt, mais il se réveille tôt.
En fait, c'est ça. Oui, mais voilà. Ça, c'est normal. Hein. Ça s'appelle le cycle du sommeil.
Son cycle, il a un cycle de sommeil limité. Il peut avoir un cycle de 5 heures, se réveille peut-être à 4 heures du matin ou 5 heures du matin.
Ben, ce qui est important, c'est qu'il ait en tout cas son compte.
C'est ça. Mais les parents, quand même, bon, c'est vrai qu'à son réveil, là, c'est toute la maisonnée qui est réveillée.
C'est la vie, comme on dit. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
On vous retrouve en ligne de Bujumbura au Burundi. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez un petit garçon de 8 ans et il a été diagnostiqué. Votre petit garçon est autiste.
Oui, oui.
Comment ça se passe aujourd'hui pour lui?
Aujourd'hui, il est là. Avant, c'est qu'on a, vous voyez, avant, c'est que l'enfant avait des turbulences, se fermait les oreilles, faisait des cris bizarres, ainsi de suite, tout ça. À l'école, il essayait de, quand on l'envoyait à l'école, il essayait de s'échapper, on courait toujours derrière lui, il ne jouait pas avec les autres, il se mettait à l'écart, tout ça. On n'avait pas encore compris de quoi il s'agissait. Mais quand on s'est rendu à un pédiatre, 15 jours, il a vu le comportement, comment l'enfant. Et puis il a dit, votre enfant doit avoir des signes d'un autiste.
Alors La ligne n'est pas très, très bonne, Jean-Paul. Alors, je vais essayer de faire, je m'en excuse, bien sûr, hein, très court avec vous. Du côté de la prise en charge, quand vous êtes allé voir des médecins, quand vous avez voulu, justement, que quelqu'un puisse s'occuper de lui, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
En fait, ici, c'est nous, il n'y a aucun centre qui peut nous aider à pouvoir traiter les enfants de problèmes pareils. Et je me suis rendu même dans la région où j'ai été. Au Rwanda, là-bas, j'ai rencontré dans un centre qui n'est pas un centre pour les autistes, mais c'est un centre pour les psychiatres. Et là-bas, on m'a dit que l'enfant pour les signes d'autisme. Il n'y a aucun centre en Afrique. Juste dans la région qui peut nous aider.
Alors, je vous arrête, excusez-moi encore, hein, parce que je veux pas être impoli avec vous, Jean-Paul. On vous a dit qu'il n'y avait pas de centre dans la région, mais je vais tout de suite prendre en ligne Bertin Mboukani, qui est à Lubumbashi en RDC. Bonjour, monsieur Mboukani.
Bonjour, madame journaliste.
Vous êtes psychologue clinicien thérapeute au centre Balou. Alors, sans bien sûr contredire Jean-Paul, notre auditeur du Burundi, on lui a dit qu'il n'y avait pas de centre de prise en charge pour les enfants dans la région. Bien sûr, Lubumbashi, c'est pas la porte à côté de Bujumbura, mais quand même, c'est dans la région. Et vous offrez une prise en charge, justement, pour des enfants différents. On a préparé l'émission, bien sûr, et vous nous avez dit que dans votre centre, eh bien, 80% des enfants que vous prenez en charge ont des symptômes de l'autisme. C'est bien ça? Je crois que nous avons perdu, hélas, la communication avec Lubumbashi. C'est bien ça? Nous ne sommes plus en ligne. On va bien sûr retenter. Hein, on est persévérant à Priorité Santé. On va retenter de le joindre pour avoir des réponses. Et puis, bien sûr, vous l'avez compris, on va mettre en relation ce papa qui a besoin d'aide aujourd'hui au Burundi avec cette structure de soins en République démocratique du Congo. Problème de prise en charge, on peut dire que c'est une constante dans de très nombreuses régions du monde, bien sûr à des échelles très différentes entre ce qui se passe sur le continent africain pas moyen, bien sûr, de comparer les deux. Mais en tout cas, je m'adresse aux parents, là. Mamadou Fané, vous avez été prise en charge très vite, compte tenu de la maladie de votre fils, dans une structure hospitalière, puisqu'il y avait maladie, il y avait soin. Après, pour la vie de tous les jours, ça se passe comment ?
Malheureusement, la vie de tous les jours, c'est, on revient à un stade encore antérieur. Là, il est déscolarisé. La prise en charge qu'on a, c'est une prise en charge juste au libéral, en orthophonie, une heure par semaine, et en psychomotricité, une heure par semaine. Il a été au CMP, mais ça a un délai de 3 ans. Après les 3 ans, bon, il faut laisser la place à d'autres personnes. Et au niveau scolaire, bon, non, il n'y a pas de structure.
Ça veut dire qu'actuellement, il est à la maison quand il n'est pas pris en charge, justement, pour ses heures de soins particuliers ?
Oui, actuellement, il est à la maison.
Et qui s'occupe de lui, alors ?
C'est moi.
C'est vous ?
Oui,
vous
êtes... les parents.
Les parents, les deux ensemble. Et vous, Madame Lepunga, comment vous faites pour vos fils ? Comment ça se passe ? Ils sont scolarisés encore ?
Le plus grand, il est au lycée aujourd'hui. Il fait un lycée général. C'est très compliqué. On est en réorientation, vu que le lycée est grand, bruyant. C'était compliqué avec les profs. Donc là, on en est là. Pour Ray Oscar, il est resté... pendant des années, quasiment sans école, à raison d'une demi-heure par jour.
Ça veut dire que c'était vous qui restiez avec lui ?
Avec lui, oui. J'étais obligée, moi, de diminuer au maximum mes heures de travail pour pouvoir pallier à tout ça. Aujourd'hui, je travaille 15 heures par semaine, voire 17 heures, quand je peux. Et le reste du temps, c'est les soins en orthophonie libérale, psychomotricité toujours au CMP. Hein, et le reste du temps, demi-matinée à l'école.
Alors, on a récupéré la ligne avec Lubumbashi. Bertin Boukani, vous êtes avec nous. On a entendu ce papa tout à l'heure, Jean-Paul, qui disait « pas de structure dans la région pour s'occuper de son fils ». Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre centre de Lubumbashi ?
Notre centre, c'est un centre médico-psychopédagogique Balou à Lubumbashi.
Et vous avez combien d'enfants aujourd'hui ?
Nous avons 180 enfants en difficulté d'apprentissage.
Quel type de praticiens prennent en charge justement ces enfants ?
Nous avons un service de psychothérapie, des pédagogues spécialisés, de la kinésithérapie, un service de neurologie qui est proche de notre centre et une équipe de sociologues.
Et d'où viennent les enfants, justement, qui sont pris en charge dans ce centre pour enfants à Lubumbashi ?
Ce sont des enfants qui viennent... Ce sont des enfants d'abord congolais qui sont ici. Et il y a les enfants qui viennent de Burundi, de Tanzanie, de la Zambie, de l'Angola et de Rwanda.
Donc sur une bonne partie de cette région des Grands Lacs et d'Afrique centrale, on avait donc ce papa Jean-Paul de Bujumbura. Ça veut dire que si on vous mettait en relation, peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour une prise en charge de son fils s'il était prêt à venir jusqu'au Congo pour justement que quelqu'un puisse s'occuper de lui.
Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Tous les enfants du monde, nous sommes prêts à les accueillir.
Comment vous faites au niveau financier ? Qui paye justement pour ces soins, pour cette structure ? Vous nous avez envoyé des photos, peut-être qu'on en mettra quelques-unes sur le site de Priorité Santé. Une très belle structure de soins, vraiment, à Lubumbashi. Ça fait plaisir à voir. Qui paye pour tout ça ?
Allô ?
Oui, Bertin Boukani, je demandais d'où venaient les financements de votre structure d'accueil des enfants. La ligne n'est pas très bonne, hein, le retour n'est pas très bon. Comment est financée votre structure ? Impossible d'avoir la liaison. On essaiera d'avoir en tout cas cette réponse ultérieurement, cette réponse à notre question. En tout cas, merci beaucoup pour ce contact, Bertin Boukani, en RDC. On va continuer notre échange. Ce qu'on entend de la part des parents, on l'a dit tout à l'heure avec le sommeil, on le dit avec la scolarisation ou la déscolarisation. C'est que les parents ont besoin, bien sûr, qu'on s'occupe de leur enfant tout simplement, mais ils ont aussi besoin de relais, d'aide, parce que il faut le plus souvent s'occuper du reste de la famille, il faut travailler, il faut continuer aussi sa vie de couple. Est-ce que tout ça rentre en considération, docteur Noël Pompuy, dans la prise en charge médicale ?
Alors, ça rentre en considération, bien sûr, parce qu'on doit prendre en compte le retentissement sur les parents, des troubles et aussi de la charge que représente au quotidien de s'occuper d'un enfant qui a de telles difficultés, du retentissement aussi sur la fratrie, c'est-à-dire que les frères et sœurs, parfois, ils mettent aussi leurs exigences de côté, ils essayent d'aider, parfois c'est aussi des petits-parents, parce que ils sont conscients des difficultés de leur frère ou de leur sœur. Le problème des relais, c'est les dispositifs d'accueil. Par exemple, se sont développés dans certaines années ce qu'on appelle des maisons de répit, c'est-à-dire des lieux qui peuvent accueillir des enfants sur des périodes comme ça, comme des vacances ou choses de ce genre, ou des week-ends, mais qui sont encore trop peu nombreuses. C'est pas non plus forcément facile pour des parents de confier leur enfant quand il y a de telles difficultés de développement ou d'expression, parce que il faut aussi
avoir confiance,
se séparer la nuit. Des fois, c'est des enfants qui n'ont pas pu se séparer non plus, pour qui sont très ritualisés, donc c'est aussi très compliqué de séparer au quotidien. Nous, sur nos dispositifs de soins et d'accompagnement, on essaye de proposer des temps comme ça, mais ça reste également très limité dans les possibilités d'offres. Après, un relais qui est très important, c'est aussi de donner des clés aux parents pour comprendre les difficultés de l'enfant, de les aider à retrouver leurs ressources, parce que ce sont des parents qui sont compétents pour les enfants en général, et que cet enfant-là les met en difficulté. Et c'est très important aussi de s'occuper du sentiment de compétence des parents, parce que on sait qu'il y a un retentissement très fort sur le vécu qui peut ensuite entraîner des difficultés relationnelles avec l'enfant ou au quotidien.
Pour que la vie continue le plus normalement possible aussi dans la famille en général, avec aussi le rôle des associations qui est très important pour cette aide, pour ces relais. Si vous le voulez bien, on va tout de suite rejoindre votre conseillère professeur Baghdad Lee qui se trouve à Montpellier.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Amaria Baghdad Lee, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du département universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Montpellier, professeur des universités, double casquette, à la fois recherche et consultation, recherche en épidémiologie. Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'une hausse de l'incidence, professeur Baghdad Lee, et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce qu'il s'agit d'un meilleur dépistage, d'un meilleur diagnostic ou d'une augmentation objective ?
Votre question est importante car depuis plus d'une vingtaine d'années, on observe effectivement une augmentation non pas de l'incidence, c'est-à-dire des nouveaux cas, mais une augmentation de la prévalence, c'est-à-dire du nombre de personnes au total qui sont concernées par de l'autisme, parce que les études épidémiologiques pour le moment ne permettent pas d'identifier si c'est une augmentation de l'incidence. Toutefois, on sait qu'il y a une augmentation nette et très importante de la prévalence, et cette augmentation de la prévalence des troubles du spectre de l'autisme apparaît partiellement expliqué par l'amélioration des conditions d'accès à un dépistage de bonne qualité et un diagnostic, mais aussi un élargissement de la conception de ce que nous appelons le trouble du spectre de l'autisme aujourd'hui. Antérieurement, les diagnostics n'étaient faits que dans des formes très sévères, et aujourd'hui, les diagnostics sont faits également dans des formes cliniques plus subtiles, non associées à une déficience intellectuelle, voire associées à d'excellentes compétences intellectuelles et verbales. Donc, une fois qu'on a dit ça, il reste une grande partie de l'augmentation de la prévalence qui est inexpliquée. Alors, et donc, pour un épidémiologiste, ça ouvre la voie à beaucoup, beaucoup de questions.
Et ça ouvre la voie aussi à des recherches. On va en parler des études que vous menez, études de cas depuis maintenant 9 ans. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément ?
Alors, nous suivons notre particularité à Montpellier en épidémiologie et nous appuyer sur des études de cohorte d'enfants, parfois très jeunes, autour de 2 ans, qui viennent de recevoir un diagnostic d'autisme dans notre centre ou dans un centre partenaire réparti sur tout le territoire national, et de suivre leur trajectoire de développement, leur trajectoire évolutive, et d'essayer d'en comprendre la diversité, puisque les formes cliniques de l'autisme sont extrêmement variées, Et une des questions que nous posons, qui est en fait une question de parents, concerne le pronostic évolutif. Qu'est-ce qui va se passer et en fonction de la sévérité du tableau clinique, essayer de comprendre quelles en sont les raisons, et notamment en termes d'intervention, de prise en charge, de conditions et de qualité de scolarité, mais aussi de problèmes de santé associés au sens large du terme, neurologique, génétique, état général. Voilà.
Il nous reste peu de temps, 9 ans de recul. Vous avez déjà des premières conclusions ou c'est trop tôt ?
Alors, nous avons du recul sur une première cohorte à propos de laquelle nous avons pas mal publié, qui s'appelle EPITED, épidémiologie des troubles envahissants du développement. C'était le terme qui permettait de qualifier auparavant l'autisme. Et là, nous avons des travaux qui montrent qu'une partie non négligeable des enfants qui avaient un diagnostic d'autisme dans l'enfance vont avoir une évolution en gardant des difficultés adaptatives importantes. Donc, il faut aussi réfléchir à la prise en charge de ces enfants devenus adultes qui ont besoin d'appui, mais aussi d'un droit à l'inclusion qui nécessite peut-être beaucoup plus de moyens pour que en comparaison aux enfants qui ont moins de difficultés adaptatives. Et puis ensuite, nous avons une autre cohorte plus récente qui a débuté en 2013 et qui nous a permis de recruter plus de 800 enfants. Et ces enfants-là, donc nous commençons à connaître leur trajectoire. Nous n'avons pas publié beaucoup de papiers pour l'instant parce que c'est la particularité des cohortes épidémiologiques. Il faut beaucoup de temps pour collecter les résultats, puis les publier. Ce que nous remarquons, alors peut-être que c'est expliqué par des conditions de vie, d'accès à la scolarité, aux soins différents, c'est que globalement, les trajectoires évolutives sont de meilleure qualité. Quand on compare des enfants qui ont été recrutés dans la cohorte épithète dans les années 90 et les enfants qui sont recrutés dans les années 2010, on a des trajectoires évolutives qui sont sensiblement différentes.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, professeur Amaria Baghdadli, pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Le temps passe très vite, on arrive déjà à la conclusion. On disait, en des termes médicaux, stratégie évolutive. Mamadou Fane, est-ce que vous voyez des progrès chez votre fils ?
Oui, on constate des progrès. Malgré la prise en charge minime, on constate des progrès. C'est vrai qu'une prise en charge globale serait bénéfique pour lui.
Quoi comme progrès pour essayer d'imaginer ? Tout à l'heure, vous parliez de ce silence, de ses problèmes pour marcher. Aujourd'hui, vous arrivez à avoir quoi comme interaction avec lui ?
Il n'est pas dans une forme de communication, mais il est dans une forme de partage. Quand il veut quelque chose, il vient, soit il prend la main. Or, ça, il ne l'avait pas avant qu'on ait les prises en charge au libéral.
Et la tendresse ?
Je sais.
Il y a des câlins ?
Il y a des câlins et il a été beaucoup stimulé par ses frères.
Par ses frères, c'est important aussi,
c'est important,
il ne les a pas rejetés.
Non, pas du tout. Il est certes isolé, et eux, ils vont le chercher pour partager le jeu avec lui.
Et vous, Lydie Lepunga, vous avez réussi à faire des câlins à vos fils ? C'était quelque chose qui se faisait ? Il y avait une interaction physique de tendresse ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, surtout pour Ray Oscar, il est très câlin. Il n'était pas en communication hier, mais comme j'avais déjà un premier avec beaucoup d'expérience, je le prenais face à moi, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, il est dans la communication, il arrive à échanger, il commence à placer les bons mots. On a fait un travail en macathon, des images, aujourd'hui ça va.
C'est notre conclusion, docteur oui. Noël Pompuis, ce qu'on entend c'est que les enfants progressent et les parents apprennent avec eux.
Oui, et les enfants progressent, comme disait le docteur Baghdadli, professeur Baghdadli, c'est aussi parce qu'il y a une prise en charge plus précoce. Plus on commence tôt, plus on a des chances de changer la trajectoire de développement de ces enfants et d'aider les parents à prendre en compte très rapidement les difficultés également.
C'est pas simplement les observer, c'est pas simplement les placer quelque part, c'est vraiment
évoluer
avec eux.
C'est un accompagnement aussi probablement tout au long de la vie qu'il faut penser et mieux penser aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation et de vous être déplacés dans nos studios. Et là, c'est passé beaucoup trop vite, j'avais encore plein de questions. C'est très frustrant. Merci Lydie Lepunga, merci Mamadou Fane, merci à vous docteur Noël Pompuis, pédopsychiatre, psychiatre, thérapeute familial et chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vice-président de la commission médicale d'établissement à l'hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise, à Sétoussamaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, nous parlerons de l'allaitement maternel. Conseils pratiques, réponses à toutes vos questions. Et bien sûr, appelez-nous 33 84 22 75 75. Message aussi attendu sur la page Facebook de Priorité Santé. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.